Bonjour Nantia, tu es bénévole pour l'association Human Rights Observers, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, moi, je suis stagiaire et je suis en charge de la coordination juridique pour le projet Human Rights Observer.
Ah, d'accord. Alors, cette association est née en 2017, après le démantèlement de la jungle de Calais. Vous vous êtes constituée avec un but qui est d'observer, récolter les données, analyser l'état des droits humains, l'état de la violation des droits humains sur le territoire de Calais et de Grande-Synthe, c'est ça ?
Oui, en fait, Human Rights Observer, c'est un projet de l'auberge des migrants qui est né de manière un peu associative à la demande des personnes exilées qui faisaient remonter beaucoup d'informations par rapport aux violences qu'elles subissaient de la part des forces de l'ordre lorsque, justement, il n'y avait plus d'associatifs présents autour des lieux de vie.
Là, on parle de violences sur les corps et sur les affaires personnelles également. Vous venez de publier le rapport 2021 pour toute l'année, le rapport annuel, mais vous publiez aussi des bulletins mensuels. Et celui de décembre 2021 est affligeant. Il y a à nouveau des expulsions de lieux de vie. Là, on se téléphone pour parler de l'expulsion du lieu de vie Old Lidl qui a eu lieu le 2 janvier. Mais dans votre rapport, vous parlez de, rien que pour le mois de décembre 2021, de 82 tentes détruites, des milliers pour toute l'année 2021, de couvertures, duvets saisies, jetées au sol, toutes les douches détruites et au moins 2 cuves de 1000 litres d'eau potable détruites. Alors, comment expliquer tout cela, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette politique qui ne semble pas viable, de pas de point de fixation, plutôt pas de répit ?
En fait, c'est ça. Human Rights Observer agit à la fois dans le Calaisis et à la fois à Grande-Synthe pour observer les expulsions quasi quotidiennes qui constituent un véritable harcèlement des personnes exilées, puisqu'en fait, du fait de l'externalisation de la frontière britannique sur le territoire français, on bloque les personnes on empêche les personnes de traverser la Manche. Et d'un autre côté, on essaye de les éloigner du littoral pour les empêcher d'accomplir leurs projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'a lieu la politique des longs points de fixation, qui se concrétise à Calais et à Grande-Synthe par des expulsions. Alors, à Calais, toutes les 48 heures. Et à Grande-Synthe, 2 à 3 fois par semaine. Et lors de ces expulsions, le moyen qu'ont les forces de l'ordre et les autorités pour faire en sorte de lutter contre ces points de fixation, c'est de saisir les affaires des personnes exilées afin de les épuiser mentalement et de les condamner, ce qui aurait dans l'idée comme conséquence que les personnes renonceraient à leur projet, ce qui n'est pas du tout viable et ce qu'on observe, on observe tout à fait l'inverse puisque ça fait à peu près 3 ans que cette politique est mise en place. Et cette politique n'est pas viable parce que on voit bien qu'il n'y a aucun changement.
Oui, quand on est déjà dans la misère, le saccage des affaires, c'est un drame de plus, mais ils veulent quand même s'en sortir. J'imagine qu'ils et elles ne vont pas renoncer à leur projet simplement par la répression. La colère doit être forte, la frustration aussi.
C'est ça, et en même temps, il y a un peu un mécanisme de défense des personnes exilées qui, pour la plupart, tendent à normaliser ce qui se passe, surtout à Calais. Il y a beaucoup de personnes exilées qui, aujourd'hui, s'auto-expulsent, c'est-à-dire qu'elles savent que les forces de l'ordre vont venir toutes les 48 heures pour leur demander de déplacer leur tente de 2 à 100 mètres, car si elles ne déplacent pas leur tente, celles-ci seront saisies. Et donc ces personnes, avant que les forces de l'ordre arrivent sur le lieu de vie qui est le leur, vont déplacer leur tente sur la voie publique de manière à ce qu'elles ne soient pas saisies pour ensuite replacer leur tente une fois que les forces de l'ordre seront parties. Mmh. Et c'est en ce sens-là qu'il y a un véritable harcèlement. C'est-à-dire que toutes les 48 heures, il y a un convoi normalement composé d'une voiture de la police nationale et de 4 fourgons de la gendarmerie mobile, avec des équipes de nettoyage et parfois avec des véhicules de la police aux frontières qui viennent sur leur lieu de vie pour leur demander de déplacer leur tente, simplement de déplacer leur tente. Et une fois que le convoi repart, ces personnes peuvent se réinstaller.
Oui.
Et c'est en ce sens qu'il y a un véritable harcèlement parce que le mécanisme se produit toutes les 48 heures depuis 3 ans.
Et ça, c'est perpétré par les autorités françaises. Est-ce que les autorités britanniques s'y mêlent, laissent faire, donnent de l'argent? C'est quoi les relations entre les autorités françaises et britanniques à ce propos?
Avec les accords du Touquet, qui auront bientôt 20 ans, je crois, qui ont eu 20 ans cette année, il y a l'externalisation de la frontière. Donc le Royaume-Uni paye la France pour que la France empêche les personnes exilées de traverser la Manche. Et plutôt que de mettre en place des politiques d'accueil, la France a pris le parti de dépenser ses 68 millions qui sont dépensés chaque année par le Royaume, enfin qui sont payés chaque année par le Royaume-Uni à la France pour mettre des kilomètres de grillage et de barbelés à Calais. Et de payer les forces de l'ordre pour mener les expulsions dans le cadre de la lutte contre les points de fixation.
Vous, Human Rights Observer, est-ce que vous êtes entendu ? Par qui est-ce que vous êtes entendu ? Par qui est-ce que vos rapports... est-ce que vous avez un poids avec ces bilans annuels, mensuels ? Qui entend vos constats, vos revendications ?
Alors, d'une part, notre travail, il est interassociatif dans le sens où nos données sont partagées avec l'ensemble des associations qui œuvrent dans le Calaisie et autour de Grande-Synthe, c'est-à-dire Médecins du Monde, le Secours Catholique, Utopia. Mais on partage aussi nos données avec d'autres organisations et d'autres ONG comme Human Rights Watch, qui a fait un rapport en 2021 qui se base essentiellement sur les données que nous, on a pu collecter, mais aussi sur l'Observatoire des expulsions, qui est un organe de Rome Europe, ou encore le Défenseur des droits. C'est-à-dire que nos données, on les partage avec d'autres organisations et d'autres ONG pour appuyer les données que nous, on collecte sur les terrains.
Et alors, la sociologie là, des personnes qui sont... à Calais et qui font partie des personnes expulsées depuis dimanche et qui, j'imagine, se sont réinstallées. Est-ce qu'il y a plutôt des jeunes ? Est-ce qu'il y a des familles ? Est-ce qu'il y a des mineurs isolés ?
Alors, les familles, elles se basent plus à Grande-Synthe, mais en effet, à Calais, notamment sur le lieu de vie qui a été expulsé très violemment dimanche, c'était essentiellement des hommes jeunes, mais aussi des mineurs isolés, oui.
Alors, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu plus de cette violence qui a été déployée au moment de l'expulsion de dimanche ?
Oui, évidemment. Donc, comme je le disais tout à l'heure, normalement, le convoi qui mène les expulsions, dans le convoi qui mène les expulsions, il y a une voiture de la police nationale et 4 fourgons de la gendarmerie. Dimanche, nous, ce qu'on a vu, c'est que le convoi, du moins pour le lieu de vie où il y a eu vraiment des violences perpétrées, il y avait 15 fourgons de CRS, 4 fourgons de gendarmerie, 17 voitures de la police nationale. Donc, c'est vraiment un convoi disproportionné.
Oui, d'accord. Et alors j'ai lu dans France Télé Info qu'il y a eu un affrontement le 30 décembre. Est-ce que c'était pas des représailles, cette expulsion très violente de dimanche ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? J'ai vu qu'il y avait une vingtaine de policiers qui avaient été blessés et 5 réfugiés, dont un qui a fini en garde à vue.
Oui, en fait, ce qui se passe, comme je le disais, c'est que les forces de l'ordre viennent toutes les 48 heures sur environ 10 lieux de vie présents à Calais pour mener des expulsions. Et là, il se trouve que jeudi 30 décembre, c'était des CRS qui étaient le concours de la force publique lors de ces expulsions. Et sur le lieu de vie de Old Lidl, en fait, les personnes ont été chassées par les CRS et donc n'ont pas pu récupérer leur tente. Donc ça a fait un peu augmenter la tension qui est déjà très présente lors d'une expulsion parce que, en fait, les tentes, c'est les seuls abris que qu'ont ces personnes pour lutter contre le froid et la pluie.
Bien sûr.
Parce qu'on est en hiver. Et donc, face à cette chasse que les personnes exilées ont vécue, elles ont un peu résisté. Et à partir de ce moment-là, les CRS ont commencé à faire usage de gaz lacrymogène, de flashball et de LBD. Mmh. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une réponse des personnes exilées qui ne se sont pas laissées faire.
Bien sûr. Oui, oui, les tensions montent.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a eu une augmentation des tensions avec du gaz lacrymogène qui a été lancé pendant environ une heure sur les personnes exilées présentes sur ce lieu de vie. Donc, il y a vraiment une augmentation des violences à l'encontre des personnes exilées qui, à la base, voulaient seulement récupérer leur tente. Et donc, oui, en effet, le caractère totalement disproportionné du convoi pour l'expulsion de dimanche sur ce lieu de vie-là est totalement justifié par les événements qui se sont passés jeudi 30 décembre, mais en même temps, jeudi 30 décembre, le convoi était déjà disproportionné puisque pour l'expulsion de Old Lidl, il y avait déjà 4 fourgons de gendarmerie et 6 fourgons de CRS avec 6 autres fourgons de CRS qui sont arrivés par la suite.
Et des arrestations, que j'ai vu dans votre rapport qu'il y a régulièrement des arrestations à l'occasion de ces expulsions.
Oui, c'est ça. Alors, par exemple, on sait que sur l'expulsion de dimanche 2 janvier sur le lieu de vie de Old Lidl, il y a eu 3 arrestations.
Et pourquoi ce nom, Old Lidl ? Le lieu de vie est-il installé dans un ancien supermarché ? Ça fait référence à quelque chose ?
Juste qu'à côté, il y avait un Lidl qui a été qui s'est déplacé par la suite.
D'accord.
Mais voilà, c'est juste des noms que nous, on donne au lieu de vie pour qu'on puisse plus ou moins se repérer de manière interassociative.
Oui. Et alors, du point de vue de la répression, est-ce que vous avez assisté, observé à des répressions de maraudes, d'associations ou de citoyens, citoyennes qui venaient apporter des repas, mais hors cadre, on va dire, parce que depuis l'année dernière, ce sont certaines associations qui ont le droit de venir faire des maraudes, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et les associations qui sont non mandatées par l'État se voient régulièrement intimidées par les CRS qui viennent relever leur identité, leur demander certaines autorisations pour pouvoir distribuer de la nourriture ou des vêtements ou des tentes, alors même que la distribution se fait sur la voie publique et donc il n'y a pas besoin d'autorisation.
Oui, ça c'est vraiment dramatique, c'est vraiment terrible, c'est ce délit de solidarité qui paraît absurde. Et alors j'avais une autre question, ah oui, dans votre communiqué, vous parlez de... Ah oui, c'est ça, c'est par rapport au drame qui arrive aux personnes à qui on prend les affaires personnelles de type papier administratif, qui, bon, beaucoup, j'imagine, ont déjà des soucis administratifs. Alors, dans le cadre de ces expulsions, si disparaissent des papiers essentiels et qu'ils n'arrivent pas à les récupérer, comment faire ? Et je voyais dans votre communiqué que vous parliez de Marlène Schiappa qui vantait un nouveau système pour récupérer les affaires, c'est ça ? Alors, dans votre communiqué, vous dites qu'il n'est en réalité pas effectif. Est-ce que vous voulez bien m'en parler un petit peu plus ?
Oui, c'est ça. En fait, les autorités, aujourd'hui, elles se justifient en disant que le fait que les tentes soient saisies lors des expulsions, c'est pas très grave parce que les personnes exilées pourront les récupérer. En fait, ça fait 3 mois que le système de la ressourcerie est fermé et donc il n'existe plus. Marlène Schiappa était venue à Calais en octobre, je crois, en vendant l'ouverture d'un nouveau lieu de stockage qui n'est toujours pas ouvert aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, comme ce qui a eu lieu dimanche à Lidl, il faut savoir qu'il y a environ 30 tentes qui ont été saisies et 5 bâches. Donc il y a des personnes qui se sont retrouvées sans abri, sans proposition de mise à l'abri pour la nuit. Et donc, ces personnes se sont retrouvées à la rue pour la nuit après l'expulsion.
Oui, dans un pays où existe la trêve hivernale, enfin, on parle des locataires, hein, bien sûr, mais bon, c'est terrible de penser qu'à cette période de l'année, il y a des personnes qui ne peuvent pas du tout s'abriter, même du froid, même du vent. Et oui. Pour décembre 2021, votre rapport explique que toutes les douches ont été détruites également. Alors, dans un contexte de crise sanitaire, ça paraît également une absurdité totale.
Oui, ça, c'était à Grande-Synthe. En fait, sur la majorité des lieux de vie, il y a des cuves qui peuvent contenir jusqu'à 1000 litres d'eau, pardon, qui sont mises à disposition par les associations aux personnes exilées pour qu'elles puissent avoir un accès à l'eau. Et sur le lieu de Grande-Synthe, en plus, il y avait 3 douches qui avaient été mises ici par des associations. Et lors d'une expulsion, l'équipe de nettoyage a les douches et les cuves d'eau, alors que normalement, ils ne sont censés saisir que les biens abandonnés.
Oui.
Et là, on sait très bien que ça appartient aux acteurs associatifs et que c'est pas abandonné puisque c'est mis ici parce qu'il y a un lieu de vie. Et le fait qu'elle soit saisie, ça montre vraiment une escalade dans les violences perpétrées à l'encontre des personnes exilées.
J'imagine que vous observez également des faits de racisme.
Oui, ça a lieu de manière systématique ici à Calais, que ce soit des contrôles d'identité ou lors des expulsions via les paroles à l'encontre des personnes exilées. C'est vraiment, il y a vraiment un racisme d'État. Systémique.
Et alors ça, c'est censé être illégal. Comment est-ce qu'on peut... faire effectivement, vous constatez, vous accumulez les preuves d'exactions perpétrées par des forces de l'ordre et rien ne bouge depuis tout ce temps.
Ben, vous savez, le projet HRO, il a 3 ans, donc c'est quand même c'est pas si vieux et on se forme et on évolue au fur et à mesure et en effet, on collecte de plus en plus de données pour pouvoir les utiliser, mais on reste un projet d'une association contre la parole de l'État. Donc il faut vraiment qu'on arrive à accumuler le plus de preuves et le plus de témoignages très précis pour pouvoir réussir à créer un contre-discours de ce qui se passe pour vraiment pouvoir dénoncer réalité ici à Calais.
Comme ce que tu disais par rapport aux affaires personnelles qui sont prises et ouvertement à la télévision, etc. Ce qui est dit, le discours officiel, c'est qu'ils peuvent les récupérer alors que pas du tout en pratique.
Oui, c'est ça. À chaque fois, on nous vend un système. Enfin, c'est quand même très absurde de se dire que c'est pas grave qu'on prenne les affaires d'une personne puisqu'elle pourra les récupérer dans 2 jours. C'est pas comme ça que c'est censé marcher. On n'est pas censé prendre les affaires des personnes exilées. Le problème, il se situe en amont de la possibilité de la restitution. C'est-à-dire que le problème, il se situe au moment où les affaires personnelles des personnes exilées, elles sont saisies.
Tout à fait. Alors, Human Rights Observers, vous êtes inspiré par le courant américain de cop-watching, c'est ça, pour votre méthode?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est que toutes les 48 heures, on va suivre le convoi de police qui va mener les expulsions pour documenter tout ce qui va se passer pendant l'expulsion. C'est-à-dire que ça peut aller ça va de la taille du convoi au nombre de saisies. Aux violences, aux arrestations qui ont lieu pendant les expulsions, sachant que toutes les 48 heures, c'est à peu près 9 lieux de vie qui sont expulsés.
Sur Et combien, du coup, vraiment, combien de lieux de vie sont présents à Calais, à Grande-Synthe?
À Grande-Synthe, c'est un plus gros lieu de vie, donc il y en a moins. En ce moment, il y a un grand lieu de vie à Grande-Synthe, mais à Calais, c'est une bonne dizaine de lieux de vie, oui.
D'accord, donc à chaque fois, ils font quasiment la totalité des lieux de vie.
Exactement, toutes les 48 heures, c'est tous les lieux de vie qui sont expulsés à Calais.
Ouais, d'accord. Et est-ce que dans le moment où vous observez comme ça, où vous suivez les opérations, vous êtes empêché? Est-ce que vous êtes vous-même réprimé? Est-ce que vous recevez des insultes? Est-ce que les forces de l'ordre font moins parce que vous êtes là?
Alors, les personnes exilées nous rapportent qu'en effet, notre présence peut diminuer un peu les violences qu'elles subissent, mais aussi les saisies, puisque en effet, si on voit qu'un sac à dos est saisi qu'une tente est arrachée des mains à une personne exilée par l'équipe de nettoyage, ils vont avoir du mal à justifier qu'il s'agissait de biens abandonnés. Après, nos équipes qui sont sur le terrain, elles subissent quand même de graves entraves, que ce soit par le périmètre fixé par les forces de l'ordre qui, de manière totalement assumée, est présent pour empêcher l'observation des équipes de Human Rights Observer, pour nous empêcher de voir le nombre de saisies ou les violences qui peuvent être perpétrées. Et après, notre équipe est souvent intimidée, que ce soit par des contrôles ou des relevés d'identité totalement arbitraires ou par des agressions verbales ou des agressions physiques à l'envers des bénévoles.
Alors comment est-ce que vous tenez moralement? Parce que quand même, pour continuer comme ça, en voyant que les solutions sont toujours temporaires, et même le drame se reproduit de manière répétée toutes les 48 heures, comment est-ce que vous tenez face à cette horreur et cette frustration
En fait, le problème, c'est que les personnes exilées, elles le vivent quoi qu'il arrive, que nous, on soit là ou qu'on ne soit pas là, les personnes exilées, elles le vivent. Et notre travail, c'est de le dénoncer. Et si les personnes exilées, elles arrivent à encaisser et à continuer malgré tout, c'est aussi notre mission et notre mandat que de continuer à les dénoncer. Parce que plus on sera présent et plus on arrivera à dénoncer ce qui se passe et dénoncer le fait que c'est répétitif et que c'est vraiment un harcèlement et un racisme d'État, plus on espère en tout cas qu'on pourra avoir des solutions définitives contre ces expulsions.
Oui. Oui, oui, c'est un travail essentiel que vous faites. Et alors, ma dernière question serait, à Calais, est-ce que les gens parlent beaucoup des échoués de la Manche, du drame qu'il y a eu le mois dernier? Est-ce que les tentatives continuent? Quel est l'état d'esprit un petit peu? Est-ce que c'est plutôt de se dire qu'ils n'ont vraiment pas eu de chance, mais que dans tous les cas, c'était une des seules solutions pour essayer? Et donc, ils continuent et elles continuent à essayer de traverser dans des embarcations surremplies et pas assez stables? Ou bien est-ce que ça a mis quand même un coup et... Voilà, est-ce que les personnes en parlent de ce drame qui est arrivé?
Alors, le drame de novembre est vraiment terrible, mais c'est pas le premier. Et il y a beaucoup de naufrages dans lesquels les personnes perdent de la vie, même si celui-ci a été vraiment beaucoup médiatisé, parce que c'est vraiment terrible qu'autant de personnes aient perdu la vie de cette manière. En ce moment, les tentatives de passage par bateau ont peut-être un peu diminué, mais c'est plus en conséquence des conditions météo.
Oui.
Que d'une décision de la part des personnes exilées de ne plus traverser. Vous savez, moi j'ai parlé avec des personnes exilées pendant une expulsion et ce qu'elles m'ont dit, c'est que elles avaient fui leur pays et qu'elles avaient traversé cette frontière, qu'il n'en restait qu'une seule qu'ils devaient traverser pour atteindre le Royaume-Uni, et que c'est pas parce que on allait les harceler et saisir leur tente tous les 2 jours ou 3 fois par semaine qu'elles allaient renoncer à leur projet. Parce
Oui,
qu'il
bien
faut pas
sûr.
oublier que ces personnes, elles ne sont pas arrivées sur le littoral parce qu'elles avaient envie, c'est pas du tourisme, elles ont vraiment fui des conditions de vie terribles, et du coup c'est pas ce harcèlement d'État-là qui va les faire qui va faire qu'elles vont renoncer à leur projet.
Oui, bien sûr. Entre le... Ouais. La situation est inextricable. Ça... Alors, comment est-ce que nos auditeurs, auditrices peuvent aider s'ils entendent ce témoignage? Hop.
En fait, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience générale sur la situation qu'il y a à Calais et à Grande-Sainte, de se dire que les personnes exilées, elles ne sont pas là. Enfin, en plus, ce qui se passe à Calais, c'est quand même incroyable, c'est que les personnes exilées, elles ne veulent pas rester en France, elles veulent partir au Royaume-Uni, et on les empêche d'accomplir ce projet. Il est totalement impensable. Après, nous, dans notre travail, nous soutenir, ça va être moins facile pour les auditeurs, dans le sens où ce qu'on fait, c'est vraiment observer les violences d'État qui ont lieu de manière systématique à Calais, mais il y a beaucoup d'associations à Calais qui ont besoin d'aide. Je crois qu'il y a un Calais à pile pour beaucoup d'associations qui viennent en aide aux personnes exilées, que ce soit pour leur distribuer des tentes, qui sont quand même des biens d'une importance extrême ici, ou que ce soit des associations qui distribuent de la nourriture ou des vêtements. Il y a besoin de beaucoup de soutien des Français envers les associations qui sont présentes ici.
On peut peut-être en citer quelques-unes, l'Auberge des migrants, Utopia 56, Calais My Grand Solidarity aussi, Human Rights Watch.
Il y a aussi Collective Aid qui interviennent beaucoup pour distribuer des tentes et des vêtements.
Et puis le Secours catholique également, et
Voilà.
ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je n'ai pas posée?
Bon, non, là, comme ça, j'ai pas vraiment d'idée. Après, il faut aussi se dire que les événements qui se sont passés dimanche sur le lieu de vie où il y a eu des grosses violences de commises, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel à Calais. Normalement, ça ne se passe pas comme ça. Mais ça reflète vraiment l'augmentation des violences qui ont lieu envers les personnes exilées. Et si on arrive à un tel niveau de violence, je pense pas qu'il va diminuer à un certain niveau. Je pense qu'il faut qu'on se dise que ce niveau de violence, il va ne faire que s'accroître, et que du coup, c'est vraiment alarmant, cette situation.
Oui, c'est clair. Je voulais effectivement te demander si ce moment de violence forte n'a pas encore accru les risques de tensions ultérieures, parce que quand il y a de la violence, après, il y a des volontés de vengeance, il y a des camps qui s'opposent clairement, et donc il y a aussi une transmission du message, quoi. Les nouveaux qui arrivent, on leur dit attention, il y a ce risque. Et effectivement, une politique de la désescalade de la violence serait intelligente. Et évidemment, une politique pour trouver des solutions, quoi. Parce que la politique de pas de point de fixation semble une politique de Shadok, en fait, qui sert à rien.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que le lieu de vie qu'on surnomme nous Old Lidl a été expulsé, et il y a eu des grosses violences qui ont été commises le 30 décembre. En réponse à ça, il y a eu une présence des forces de l'ordre disproportionnée pour une nouvelle expulsion le 2 janvier. Il faut rappeler que sur ce lieu de vie, il y a eu une présence de plus de 100 officiers des forces de l'ordre pour mener l'expulsion, où on a bien vu des CRS chasser des personnes exilées, donc les éloigner de leurs tentes, suite à quoi l'équipe de nettoyage est venue saisir donc les seuls abris que ces personnes avaient, et que ce lieu de vie a encore été expulsé aujourd'hui.
Oui. Là, aujourd'hui.
Aujourd'hui encore.
Oui, 2 jours après, le 2 janvier.
C'est ça, et il sera expulsé à nouveau dans 48 heures.
Et alors, est-ce que tu as déjà parlé avec ces personnes est-ce qu'elles n'ont pas peur de l'esclavage qu'il peut y avoir au Royaume-Uni ?
Je vous avoue que ce n'est pas du tout un sujet qui intervient dans mon mandat et ce n'est pas du tout une conversation que j'ai eu l'occasion d'avoir avec
Parce que je sais qu'il y a des risques également arrivés là-bas. Ils peuvent trouver du travail, mais j'ai déjà vu de nombreux articles de presse sur des personnes qui avaient été retrouvées, séquestrées pendant des années, chez des familles qui les avaient achetées, des choses comme ça. Je me suis toujours demandé si ces personnes... En cherchant à passer, ne risque pas pire en allant au Royaume-Uni que dans un autre pays. Mais bon, après tout, ça, on ne sait pas du tout quelle est la meilleure solution quand rien n'est offert aux personnes les plus pauvres pour travailler, pour se faire une vie normale. Oui.
Oui. Je vous avoue que je pense que ces personnes, elles sont... Elles cherchent juste à avoir une vie normale. Elles ne veulent pas avoir un mode de vie transcendant. Elles cherchent juste la normalité. Mm-hmm. Et c'est cette normalité qu'on leur refuse partout, et même ici à Calais.
Mm-hmm. Alors que après, nous aussi avons des secteurs d'emploi qui sont vides. Enfin, on a besoin de monde. Enfin, voilà, le pays est assez grand pour accueillir beaucoup de monde quand même. On a des maisons vides dans toutes les villes.
Après, vous savez, il y a aussi le règlement Dublin en Europe,
oui,
qui fait que c'est le premier pays de passage d'une personne exilée, pas le pays responsable de sa demande d'asile. C'est aussi pour ça que la situation en Grèce et en Italie est aussi dramatique, puisque des milliers de personnes exilées sont bloquées là-bas. Les personnes exilées qui aujourd'hui sont en France prennent aussi le risque qu'à tout moment, elles se fassent arrêter et que lors de l'examen de leur situation, on observe que leurs empreintes ont été prises en Italie, en Grèce ou à Malte, ce qui signifie pour elle une déportation directe vers ces pays.
Oui, une obligation de quitter le territoire français pour retourner dans le premier pays où leurs empreintes ont été prises en arrivant en Europe.
Oui, et c'est aussi ça qui motive beaucoup leur volonté de rejoindre le Royaume-Uni.
Oui, d'accord. Eh bien, je te remercie énormément, Nancia. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais ajouter ?
Non, je pense pas, à part que c'est quand même incroyable que pour le 2 janvier 2022, l'année commence avec sous le signe des violences d'État.
À peine manière aussi... le temps de se souhaiter de bonnes choses pour l'année que le cauchemar commence.
Oui, c'est ça. Mais voilà, je crois que j'ai rien à ajouter.
Eh bien, merci beaucoup pour ton courage, pour ta prise de parole, et puis pour cette patience que tu déploies à supporter toute cette situation et continuer à aider, à observer, à tenir le coup.
On est vraiment une équipe très soudée. Et il y a vraiment le relais interassociatif qui est très important ici à Calais, qui nous permet vraiment de faire ce travail de documentation.
Eh bien, merci beaucoup. Je vais renvoyer vers le site de l'Auberge des Migrants, sur lequel il y a à la fois la description aussi du fonctionnement de Human Rights Observers, vos méthodes, et puis la synthèse, le rapport pour l'année 2021, pour pouvoir être au courant de vos constatations et ce que vous avez observé. Vous précisez bien que ces données ne sont pas exhaustives, hein, c'est vos observations, mais... c'est un travail essentiel que de surveiller les flics dans ce genre de situation.
Oui, c'est ça. Par exemple, sur l'année 2021, Hachero a pu documenter 1226 expulsions, mais on sait que notre travail, nos données ne sont pas exhaustives et que par conséquent, il y a forcément eu plus d'expulsions qui ont été menées que celles qu'on a pu documenter sur l'année.
Eh bien, j'espère que tout ce travail va aider à changer la situation, à ne pas rester bloqué dans ce type de situation inhumaine et pas viable du tout. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. J'espère que votre travail portera ses fruits et sera entendu par le plus grand nombre.
Merci beaucoup, on espère également.